nom de Jésus. Amen. Super. James, tu peux venir. Donc James Clark est pasteur à Louvain-la-Neuve, comme j'ai dit. Et il va venir apporter la prédication ce matin. Rappelle-moi le texte.
37.
Super, merci. Je vais lire pour nous. Donc Luc 9, versets 37 à 50. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria : « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup, il pousse des cris. L'esprit secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples : « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »
Mais bonjour à toutes et à tous. Et comme Lucas a dit, moi c'est James, pasteur adjoint à Louvain-la-Neuve, et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation. Le soleil brille sur Bruxelles ce matin. Et merci Seigneur pour sa parole. Je vous prie de garder le passage ouvert devant les yeux, si possible, en Luc 9. Je ne sais pas si vous avez été tenté de vous inscrire pour le cercle royal du parc. Est-ce que vous avez été tenté de vous inscrire ? Ou le CRP pour les intimes. C'est le club le plus exclusif de toute la Belgique. Fondé en 1842 au Parc Royal. Maintenant, il se situe à Ixelles, juste en face de l'étang d'Ixelles. Je ne sais pas si vous avez visité une fois l'étang. Il y a une bonne friterie juste à côté, on m'a dit. Peut-être j'ai testé aussi. Mais ça se trouve là-bas. Et c'est un lieu où se réunissent les grands du pays. La noblesse, la diplomatie, les hautes fonctions civiles et militaires. Une fois entré, il y a, bien sûr, de nombreux avantages. Plusieurs salons de détente, des restaurants gastronomiques, salles pour des concerts, rencontres avec des leaders de tous les domaines de la vie de notre pays. Mais il y a juste un seul problème, juste un seul petit problème. C'est le club le plus exclusif de toute la Belgique. Oui, il y a le code vestimentaire à respecter, le prix extravagant à payer. Mais pour entrer, il faut être quelqu'un quand même de très important. Mais comme j'ai dit, si vous voulez postuler, vous pouvez faire ça cet après-midi, si vous n'avez rien à faire. C'est à Ixelles, rue Général de Gaulle, numéro 43. Mais une fois entré, dans le club. Mais maintenant, je veux vous poser la question. Si vous êtes tenté de le faire, de vous inscrire, avec tous ces avantages, est-ce que vous allez le faire vraiment, en toute honnêteté? Qu'est-ce que vous pensez? Je suppose que la réponse, c'est plutôt dans le négatif. n'est-ce pas? Vous pensez peut-être comme moi, ça vaut pas la peine l'énergie de frapper à la porte, ou le temps d'écrire le mail, ou de vous rendre à Excel. On commence avec le CRP ce matin, parce qu'il se peut que, peut-être que nous aussi ce matin, nous pensons que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est un peu comme cela. C'est le royaume de Dieu, c'est plus ou moins comme un grand club. Le CRC, on va l'appeler, le club royal du Christ. C'est restreint. C'est pour certains. Il y a un code à respecter. C'est pour les nobles, pour les bien éduqués, ou pour les religieux. Et tout comme le CRP, on se dit, mais c'est pour les autres, surtout pas pour moi. Ça ne vaut pas la peine de frapper à la porte. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un groupe de personnes dans l'évangile de Luc qui pensent plutôt que le royaume de Dieu, c'est comme cela. C'est comme un club exclusif. Ils pensent que le royaume de Dieu, c'est pour les VIP. Et eux, ils sont dedans. Les véritables VIP dans le club royal du Christ. Les gens pour qui le tapis rouge divin existe. Et qui sont les VIP? Mais c'est les disciples de Jésus. Disciples de Jésus eux-mêmes. Et ils s'appellent les grands. Donc merci de voir cela dans le texte devant nous. Nous avons affaire à un thème des grands et des petits ce matin. Donc merci de regarder le verset 46. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une discussion qui survint entre eux pour savoir par qui parmi eux était le plus grand. Au verset 47, pardon, Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant. Ou le verset 48, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant. Et on va voir la même chose au 49. Où les disciples reprochent un homme qui ne suit pas, on lit, avec nous. Il ne nous suit pas. Est-ce que vous voyez cela? Les disciples, vous voyez, ils pensent qu'ils font partie d'un club exclusif. Et entrer à leur club, c'est quand même difficile. Ils vont faire souffrir les autres s'ils pensent avoir un accès facile. Après tout, les disciples de Jésus sont des nobles de l'époque, des Israélites, les fils d'Abraham. Encore plus, ils suivent le Messie eux-mêmes. Mais Jésus a de grandes leçons pour nous tous ici, pour les soi-disant grands. Ça sera une leçon capitale pour nous sur l'entrée dans le royaume de Dieu. Les grands vont recevoir un grand choc, mais ça sera aussi un encouragement, j'espère, ce matin, pour les petits parmi nous dans la salle, qui pensent, ah, c'est surtout pour les autres. Ce n'est pas pour moi-même. Donc nous avons deux points ce matin, très simples. D'abord, les grands ont besoin de Jésus. Nous nous trouvons donc au verset 37, s'il vous plaît, en train de descendre une montagne. Dans le passage précédent, Jésus était au sommet de la montagne avec trois de ses disciples pour leur expliquer justement son royaume. Et il voulait leur montrer sa gloire, la gloire du Christ, le roi, en tant que fils de l'homme. Si vous connaissez déjà un peu l'Ancien Testament, le fils de l'homme, c'est un personnage important dans le livre de Daniel, Daniel 7, qui décrit un roi qui allait venir, qui va régner sur toutes les nations et pour tous les temps. Et Jésus déclare que lui-même, il est ce fils de l'homme. Et il venait de tout juste quitter la montagne quand une foule, une grande foule, court vers Jésus. Est-ce que vous voyez ça, le verset 37? Car il y a un problème. Un homme explique, verset 38, que son fils, saisi par un esprit mauvais, avec des effets néfastes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais verset 40, nous apprenons. L'homme dit, j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pas pu. J'ai prié tes disciples de le faire, de le chasser, mais ils ne l'ont pas pu. Le problème, selon le papa, c'est clair. Les disciples de Jésus étaient convoqués pour l'aider. Ils sont, après tout, les disciples de Jésus. Ils sont des Israélites, des nobles dans le royaume de Dieu. Alors, si quelqu'un va le faire, c'est surtout ces grands, ici, dans le royaume, n'est-ce pas? Eux qui ont suivi les miracles de Jésus depuis des années. Alors, ça a du sens, n'est-ce pas, de demander aux grands, aux disciples de Jésus. Mais quelle horreur, quel choc. Ils n'ont pas pu. Mais qui est le plus frappé parmi tous? Mais c'est Jésus, n'est-ce pas? Et vous voyez là le reproche de la part de Jésus. On va voir plus tard un homme inconnu au verset 49. Lui, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il arrive à chasser des démons. Lui, un petit dans le royaume. Mais les disciples, les grands, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Mais Jésus explique. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Ils sont une race incrédule, dit Jésus. C'est-à-dire, les disciples ont essayé de le faire par leur propre nom, au lieu du nom de Jésus. Ils ont essayé de faire de leur propre force, sans la foi en Jésus. À cause de leur statut, parce que ce sont des grands, après tout. Ils ont essayé de le faire, chasser ce démon, sans passer par Jésus-Christ, son nom à lui. Cette histoire en Luc, ça arrive souvent, c'est un énorme déjà-vu. Peut-être vous avez déjà constaté dans ce récit. C'est un énorme déjà-vu. Et Luc aime prendre des anciennes histoires dans le présent pour nous présenter que l'homme n'a pas changé. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Mais ce récit se ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Est-ce que vous avez lu ce passage en Exode? On a le grand rédempteur, lui-même Moïse, qui est monté sur une montagne après l'Exode de l'Égypte pour rencontrer Dieu. Il était en haut de la montagne et il y avait... Qu'est-ce qui se passait en bas? Mais il y avait le chaos total. Les Israélites ne voulaient plus attendre le retour de Moïse et ce race incrédule a perdu confiance en Dieu. Ils ont essayé d'agir pour eux-mêmes. Vous vous rappelez de cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fabriqué un idole pour eux-mêmes, le veau d'or. Et quelle était la réaction de Dieu? Mais nous avons, je ne sais pas si c'est sur l'écran, mais en Exode 32, nous avons l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Est-ce que vous voyez la réaction de Dieu? C'est quand même intéressant, frappant. Un Dieu colérique, désespéré presque, par le manque de foi des grands, d'Israël, le peuple qui a vu toutes ses œuvres en Égypte. Et c'est Moïse qui va remonter et il va s'offrir comme substitut à la place du peuple. Est-ce que vous voyez, il y a des similarités, n'est-ce pas, ici, en Luc 9? Est-ce que vous voyez le déjà-vu? On a la descente de la montagne, après avoir vu la gloire de Dieu. Le grand libérateur descend. Et Dieu leur avait parlé sur la montagne en Luc 9. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais en bas de la montagne. Mais Israël, les grands, ils ont marre d'attendre pour Jésus. Et eux, ils décident de prendre les rênes, si vous voulez. La réaction, mais verset 41. Jésus réagit exactement comme Yahweh en Exode. Il dit « race incrédule et perverse ». Est-ce que vous voyez ce que Luc est en train de faire? Il est en train de montrer que l'homme n'a pas changé. Que Israël avant et le Israël maintenant, pour Luc, C'est le même, le cœur de l'homme n'a pas changé. Les soi-disant grands du royaume restent incrédules par nature. Nous sommes, par nature, les hommes et les femmes, par nature, ceux qui n'ont pas de confiance en Dieu lui-même. Qu'est-ce que Jésus fait ? Mais avec un seul mot, il fait chasser le démon. C'est lui, le Rédempteur. Et on devrait placer notre confiance sûrement en lui. Mais est-ce que vous voyez ce que Luc veut nous montrer ? Tel père, tel fils, si vous voulez. Rien n'a changé. Les VIP qui sont sollicités pour aider, ils ont un gros problème, un manque de foi. Une race incrédule. Les grands, en fait, à vrai dire, sont des petits, si on peut dire comme ça. Israël, l'élu choisi par Dieu, montre leur incrédulité. Il y a une histoire fameuse concernant un prédicateur qui était londonien, Charles Spurgeon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui au 19e siècle. Mais Charles participait à une conférence où il y avait des invités qui s'estimaient mieux que les autres. Ils pensaient qu'ils étaient des grands. Ils proclamaient qu'ils avaient atteint un niveau de spiritualité au-dessus des autres. Ils ont dit qu'ils pouvaient atteindre même le perfectionnisme dans la vie chrétienne. Waouh, ça c'est chouette, n'est-ce pas, d'atteindre une vie sans péché. Et donc ces hommes, pendant leur conférence, ont proclamé qu'ils ont maintenant atteint ce niveau. Et Charles n'a rien dit pendant les conférences, ce grand prédicateur connu. Tout le monde attendait sa réponse, il n'a rien dit. Puis le lendemain, au petit déjeuner, tous les conférenciers se rendent dans la salle à manger pour manger. Et Charles, il prend une cruche remplie de lait. Et il va derrière ces hommes et il verse la cruche de lait sur la tête de ces messieurs. Et il commence à râler et à insulter Spurgeon. Et Spurgeon a dit, mais voilà. Il a prouvé que ces hommes n'étaient pas sans péché. Après tout, ce ne sont pas des grands. Ce sont des petits, comme le reste d'entre nous. Les grands ont besoin de Jésus aussi. Et nous voyons la même chose dans cette deuxième épisode en Luc 9. Peut-être on est un peu incrédule nous-mêmes que les disciples sont comme ancien Israël, que rien n'a changé. Mais Luc prend un deuxième épisode pour nous montrer juste là, pour souligner le gros problème, non seulement des grands, mais de nous tous. Jésus leur explique très simplement dans les versets qui suivent. Est-ce que vous voyez ça dans les versets 43 à 45, sa mission. Ce n'est pas une longue phrase, ce n'est pas très compliqué ce qu'il dit. Il va seulement expliquer ce qu'il va faire. Alors simple, n'est-ce pas pour les grands de comprendre une seule phrase sur la mission de Dieu, ça devrait être facile. Jésus leur dit, verset 44, « Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. » Prêtez bien l'oreille. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sur la montagne, Daniel 7, va être livré entre les mains des hommes. Voilà, fini, phrase finie. Vous voyez ? Est-ce que c'est difficile ? Non, je pense pas trop difficile que ça. Mais vous voyez la réaction de ces grands dans le royaume. Nous lisons, les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Encore une fois, je pense que Luc prend un déjà-vu. Il cite un texte ici qui était très connu et pas très aimé, je pense, par Israël, de Ésaïe chapitre 6. Les versets 9 et 10, où Ésaïe est demandé par Dieu d'avoir une mission de jugement, de rendre Israël aveugle. Peut-être vous connaissez ces versets connus en Ésaïe 6, qui dit ceci, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rendre insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé à Israël dans le passé? Ésaïe était envoyé pour une mission de rendre Israël aveugle. C'est ce qu'il désirait. Israël, à l'époque, il voulait fermer les yeux à Dieu. Il voulait boucher les oreilles. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans son jugement? Mais il a affermi Israël dans leur péché. Il a dit, vous voulez un cœur dur? Voilà, je vais endurcir vos cœurs alors. Et le but de Luc ici, en citant Ésaïe 6, qu'est-ce que nous avons? Mais c'est un déjà vu, si vous voulez. Il veut montrer que Israël, les grands maintenant, sont exactement comme l'Israël du passé. Ils ne voient pas de leurs yeux. Ils ne comprennent rien de ce que dit Dieu. Il y a un grand aveuglement pour les grands dans le royaume de Dieu. Rien n'a changé. Tel père, tel fils. Les grands ont besoin d'un sauveur. Et un plus gros problème, n'est-ce pas, verset 45, c'est que les grands n'osent pas poser une question. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Si on pense que je suis là par mérite, alors je ne vais pas montrer un peu de faiblesse, n'est-ce pas, dans le royaume. Je ne vais pas dire, oh, je n'ai pas tout à fait compris Jésus. Non, je vais me taire en juste espérant qu'un jour je vais comprendre. Les grands n'osent pas montrer de faiblesse, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que vous voyez pour la fin de cette première partie? C'est simple. Deux histoires, deux déjà-vus. Exode 32, Ésaïe 6. Deux textes qui parlent d'un problème majeur pour Israël. Incrédulité, aveuglement. Et Luc, l'évangéliste, les utilise pour nous montrer combien ils sont d'actualité. Et c'est le cas pour maintenant. Nous tous, par nature, nous sommes aveugles, incrédules. Les grands ont besoin de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment clé de la prédication. Nous allons voir la deuxième partie. Mais juste avant cela, je veux vous montrer un peu la logique, il me semble, de Luc ici, et de Dieu, la logique parfaite de Dieu. Ce que nous avons vu alors, c'est que tous ont besoin du salut, n'est-ce pas, de Jésus. Même les grands, par leur propre terme, ils ont besoin de Jésus. On est tous dans le même bateau, tous ont besoin de Jésus. Et si c'est le cas, chers amis, je vous pose la question. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le salut? Si ça ne vient pas du fait d'être un grand, parce qu'un grand n'existe pas, alors nous sommes en train de dire, n'est-ce pas, que le salut doit être un cadeau. N'est-ce pas? Ça doit être gratuit. Ça ne peut pas être mérité, n'est-ce pas, si on n'est pas des grands. Et si c'est le cas, voici la logique incontournable pour la deuxième partie de ce texte. Si c'est un cadeau, alors qui peut refuser ce cadeau aux petits? Est-ce que vous voyez la logique? Si on n'est pas des grands, on est des petits, alors qui peut refuser ce salut qui doit être gratuit, offert? Qui peut refuser cela à un petit? Qui peut refuser ça aux exclus, aux pécheurs, aux non-juifs, en fait, à tout le monde, tout l'univers? Qui peut refuser cette entrée dans le club exclusif, si vous voulez, du royaume de Dieu? Parfois, à Louvain-la-Neuve, il y a des promoteurs dans la rue. Je ne sais pas si vous avez là où vous travaillez ou habitez, mais c'est un bon endroit, Louvain-la-Neuve. Beaucoup d'étudiants qui cherchent à manger, à boire. Donc, ils offrent des produits gratuits dans les rues. Donc, ça peut être une nouvelle boisson de Schweppes. Moi, je suis là pour ça. Ou une barre de Côte d'Or. Ou un nouveau yaourt avec protéines supplémentaires. Oh, les étudiants kiffent cela. Plus de protéines, il faut pour aller à Basic Fit après. En tout cas, ils donnent un échantillon de leurs produits. Donc, c'est un petit, ce n'est pas le gros, afin que vous achetez, je pense, après, dans le spa ou Colruyt après. Mais le prix pour un échantillon, c'est totalement gratuit. On ne paye pas pour un échantillon. Alors imaginez-vous qu'un monsieur costaud, bien musclé, très grand, de 2 mètres de taille, il vient demander le yaourt avec protéines supplémentaires. Et il reçoit avec joie cet échantillon. Mais après lui dans la file, qui est-ce ? C'est une petite, une vieille dame, plutôt 1,20 m de taille. Et elle étend sa main avec un sourire pour le yaourt, avec extra protéines. Est-ce que nous allons refuser le yaourt à cette dame ? Qu'est-ce que vous pensez ? Je sais que c'est une illustration bête, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est gratuit, n'est-ce pas ? Et donc, même si on pense que c'est très inapproprié, tu ne mérites pas, ce n'est pas pour toi, on ne peut pas, n'est-ce pas ? Parce que c'est offert, c'est gratuit. Et si c'est un cadeau pour les grands, ça doit être, n'est-ce pas ? On ne peut pas refuser aux petits le royaume de Dieu. Et à l'époque de Jésus, il a bousculé le monde entier en disant que le royaume de Dieu, en fait, c'est pour tous, les petits inclus. Le salut vient par Jésus, qui va être livré entre les mains. Comme Moïse, il va s'offrir comme un substitut pour la race incrédule. Alors, qui peut refuser ce salut aux petits ? C'est ce que nous avons dans le texte, c'est notre deuxième et dernier point. Les grands ont besoin de Jésus, alors il y aura toujours une place pour les petits. Pour illustrer cela, qu'est-ce que Jésus fait ? Mais il prend littéralement un petit devant les yeux. C'est utile d'avoir des illustrations vives, n'est-ce pas ? Il prend littéralement un petit enfant. Je ne sais pas à quel âge, si c'était un gamin de 3 ans ou un petit bébé dans les bras. Le contexte, verset 46, mais c'est une discussion vive entre les disciples. Est-ce que vous voyez ça ? C'est une discussion sur qui est le plus grand parmi eux. C'est très ironique, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars, il y a 10 minutes, en bas de la montagne ? Vous vous rappelez de ça ? Est-ce que vous étiez grand à ce moment-là ? Mais où se tient cette conversation ? Il nous semble que c'est juste en dehors de l'écoute de Jésus. Comme quoi ils savent que ce n'est pas un bon sujet pour discuter, n'est-ce pas ? Qui est le plus grand ? Et ils ont sous-estimé Jésus, n'est-ce pas ? Verset 47, parce que Jésus sait lire leurs pensées. Est-ce que vous savez que Jésus sait lire les intentions de nos cœurs ? Voici ce que Jésus fait, verset 47. Connaissant la pensée de leur cœur, il prit un petit enfant, la plaça près de lui. Il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ce que Jésus est en train de dire alors est très puissant, n'est-ce pas ? Jésus dit que la manière dont on traite le petit qui vient au nom de Jésus, en fait, ça montre ce que moi je pense de Jésus. Vous voyez ça ? Non seulement de Jésus, mais de son Père. J'espère que ça a été clair jusqu'à là. Mais si on rejette un petit enfant qui vient au nom de Jésus, je suis en train de dire que moi, je suis un grand. Il faut être un grand pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Et par conséquent, est-ce que moi, j'ai besoin de Jésus ? Non, je suis en train de... Si je rejette le petit, je suis en train de rejeter Jésus. Je suis en train de dire que ce n'est pas un cadeau qui vient par Jésus. Et Jésus va même plus loin. Si on n'accepte pas Jésus, verset 48, on n'accepte non plus son Père. La manière dont on traite le petit qui frappe à la porte du royaume de Dieu, ça montre ce que moi je pense sur Jésus-Christ. Pourquoi il est venu sur terre. Si on est sauvé par la foi, ou parce qu'on est un VIP. Mais si on switch la chose, si on le voit dans le sens inverse, c'est formidable. Et Jésus veut encourager les disciples à le faire. Si on accepte plutôt le petit qui vient par Jésus, Jésus dit qu'on est en train d'accepter lui-même, que lui, il est le sauveur de tous, le vrai sauveur. et je suis en train d'accepter le Père qui l'a envoyé pour les nations. Et Jésus a une deuxième opportunité pour enseigner les grands au verset 49, avec cette deuxième histoire. Même si le mot petit n'est pas employé, l'idée, je pense, est présente en tout cas. Il s'agit d'un homme inconnu. Nous avons vu, verset 49, un homme qui chasse les démons en ton nom. Et que font les grands? Vous voyez ça? Mais ils décident de faire quelque chose de très sage, n'est-ce pas? D'empêcher ce petit de faire de bonnes œuvres. Les œuvres qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes, vous vous rappelez de ça? À cause de leur incrédulité? Maintenant, ils empêchent un petit qui font de bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. La raison donnée par les disciples, il n'est pas avec nous. Il ne nous suit pas. Il n'est pas dans notre club, Jésus. Il ne porte pas de bons vêtements. Il n'utilise pas le même langage que nous. Il ne vient pas de la même famille. Mais la réponse de Jésus est magnifique, n'est-ce pas? Au lieu de répondre avec sévérité, moi j'aimerais les secouer. Les gars! Verset 50, vous l'avez vu? Jésus dit avec douceur, ne les empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. N'est-ce pas magnifique? Je pense pour deux raisons. C'est que Jésus, il est en train de dire qu'il peut y avoir des personnes inconnues, des petits qui font de magnifiques choses pour le royaume de Dieu. Et ils n'ont pas besoin de votre accord préalable, n'est-ce pas? Ils ne font pas passer par vous pour avoir l'accord de faire des choses pour Jésus. Mais la deuxième chose, pourquoi c'est génial ici la réponse de Jésus, c'est que Jésus va un peu plus loin, plus profond, pour demander, en fait, quelle est la raison d'être pour les disciples? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, ils sont derrière quelle cause, les disciples? Ce monsieur, s'il n'est pas contre vous, il est pour vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Est-ce que nous recherchons notre gloire ou la gloire de Dieu? Et Jésus dit, si c'est la gloire de Dieu, alors il n'est pas contre vous, les gars. Il est avec vous, il est pour vous. Il veut vous soutenir. Est-ce que vous allez le soutenir dans ses belles œuvres pour la gloire de Dieu? Terminons donc avec un mot pour deux personnes dans la salle. Je ne sais pas où vous êtes, mon ami, ce matin sur le spectre. Je me demande, est-ce que vous vous sentez comme un grand ou un petit ce matin? Est-ce que vous vous sentez comme un pilier dans le royaume de Dieu, que tout existe à cause de moi, comme les disciples? Ou est-ce que, plutôt, vous êtes comme un de ces petits qui est entré par la porte arrière du bâtiment, qui se cache dans le coin du royaume, de peur qu'on vous remarque et on vous jette dehors? Voici un mot pour la personne qui dit « je suis trop petit pour le royaume ». Peut-être vous n'êtes pas un grand théologien. Peut-être vous ne connaissez pas grand-chose sur la Bible. Vous n'êtes pas un saint moralement non plus. Toute la Bible est nouvelle pour vous, peut-être. Mais qu'est-ce que Jésus veut que vous entendez ce matin? Mais il désire désespérément, n'est-ce pas, désespérément, que vous entendez, il y a toujours, toujours une place pour les petits. N'est-ce pas? Toujours une place pour les petits dans son royaume. Parce qu'il n'y a pas de grand aux petits. Et que personne ne vous trompe en disant le contraire. Tous soient entrés par la même route, le même chemin, le même passage, le même Jésus qui s'est offert une fois pour toutes pour quiconque croit en lui. Je suis étonné que cette discussion sur les petits s'amène à une grande décision, la plus grosse décision de la part de Jésus pendant tout son ministère au verset 51. Ce n'est pas dans notre texte, alors je vous excuse pour cela. Mais Jésus, après avoir entendu ce discours sur le fait de mettre les petits à sa place, qu'est-ce que Jésus fait? Mais verset 51, si vous avez les Bibles, il est encore plus résolu pour aller à la croix, pour aller à Jérusalem, parce qu'il aime tellement les petits. N'est-ce pas incroyable? Il entend ce manche discours sur les petits et ça le rend encore plus résolu d'aller mourir pour les pécheurs. Si vous êtes un petit, il n'y a pas besoin de se cacher. Pas besoin de faire comme on fait un Excel, de jamais frapper à la porte du club en pensant c'est pour quelqu'un d'autre. Mais frappez, tendez la main. Le royaume, c'est pour vous. Et qui est le deuxième type de personne? Mais la personne qui dit « je suis plutôt un grand ». Et je pense que j'ai honte de le dire, chers amis, voilà, prédicateur invité parmi nous, mais voici mes péchés. Mais je pense que moi, personnellement, j'ai besoin d'être repris comme les disciples pour se sentir comme un grand. Je souffre d'une maladie, de la maladie d'un grand comme les disciples. Et voici quelques symptômes, chez moi en tout cas. Peut-être vous pouvez reconnaître aussi dans votre vie. Quels sont les symptômes d'un grand? Mais voici un premier, un manque de joie, je pense, un manque de joie dans notre salut. Le grand va toujours souffrir de cela, n'est-ce pas? Parce que si je commence à voir la vie chrétienne comme quelque chose que moi je prends comme normal ou acquis, qui repose sur mes mérites, les bonnes choses, alors j'aurai de moins en moins de joie, n'est-ce pas, de connaître Jésus. Et si j'ai moins de joie, peut-être ça montre que je devrais revenir à la croix. Revenir et reconnaître à nouveau que tout est par grâce, tout est un cadeau. J'étais aveugle, race incrédule, mais Jésus a ouvert grande la porte pour moi. Voici un deuxième symptôme d'un grand. Je pense méfiance des œuvres pour Jésus par des inconnus. Trop souvent, je pense que je démontre une attitude telle que Jean au verset 50. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Quelqu'un vous raconte comment l'évangile se propage par une œuvre chrétienne dont je n'avais jamais entendu parler. Notre réaction, mais moi, j'ai, au lieu de célébrer et louer Dieu, je mets cette info dans la poubelle. Parce que ce grand ne le reconnaît pas. Alors ça ne peut pas être une grande chose pour le royaume. C'est en dehors de mon sphère, mon petit sphère évangélique. Ou quelqu'un recommande la musique chrétienne dont on n'a jamais entendu parler. Et je dis, oh, ça doit être nul. Entendant parler de cette église qui travaille dans les centres urbains de Charleroi, qui prêche différemment, qui livre des livres chrétiens différents que nous. Et on pense, ah, ça ne peut pas être bon pour le royaume. Non, il faut faire comme moi, comme nous. C'est horrible à voir, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Mais ceux qui ne sont pas contre vous, ils sont pour vous. Et le troisième marqueur, en allant un peu plus loin, peut-être c'est ceci. On préfère critiquer au lieu de faire nous-mêmes. Jean est ravi ici de partager avec Jésus qu'il a pu arrêter les œuvres de quelqu'un d'autre dans le royaume de Dieu. Parce qu'il ne s'était pas fait correctement, apparemment, selon les termes des disciples. Et nous, parfois, est-ce que ce n'est pas plus facile de critiquer au lieu de faire? Je pense que les grands en souffrent de cela, n'est-ce pas? Ceux qui essayent pour la gloire de Dieu d'évangéliser, implanter des églises, aimer les brebis, quel est le plus facile, depuis mon fauteuil, de les critiquer, de les empêcher ou de les soutenir? Ou de faire moi-même, quel est le plus facile à faire? Oh, combien Dieu aime ceux qui essayent, qui travaillent pour sa gloire. Et que Dieu ait pitié de nous, qui passons notre temps à critiquer en pensant qu'on est grand dans le royaume de Dieu. On va terminer avec cela. Voici la grande leçon, je pense, le grand dans le royaume. Est-ce que vous voulez être grand? Jésus dit que c'est possible d'être grand. Et voici le secret, chers amis de LifePoint, ce matin, verset 48. Vous voulez être un grand? Mais Jésus dit ceci. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Je vous invite à prier ensemble. Ô notre Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton cher Fils du ciel pour nous, le Fils de l'homme, le Roi éternel, qui mérite toute adoration pour sauver le plus vil des pécheurs comme nous, les indignes, les rebelles, les aveugles, les incrédules. Merci pour ta générosité. Le royaume est pour le petit. Alors je prie pour ceux dans la salle qui se sentent loin de toi, trop loin, trop sales pour entrer dans la porte. Que tu les aides à voir que Jésus suffit, que Jésus a tout payé. Et pour tous ceux qui, comme moi, souffrent de l'égoïsme, que tu nous aides à retrouver la joie, la vraie joie de notre salut par grâce. De ne pas rejeter ton Fils, ni les petits qui viennent en son nom. Que tu nous aides tous à œuvrer pour ta gloire et ta gloire seule. Aide-nous à appuyer uniquement sur le sang précieux de Jésus. Et nous prions cela en son nom. Amen.